Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'À toi les étoiles, Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, ainsi que moi-même, Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette 129e émission d'À toi les étoiles, mais aussi la première de cette formule de l'été, puisque sachez que chaque été, je vous propose la formule été d'À toi les étoiles, qui consiste à délocaliser l'émission et à travers une balade à travers la France, vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Cette saison 2015 sera très légèrement différente par rapport aux saisons précédentes, puisque je réponds à la suggestion d'un auditeur qui m'avait suggéré de faire des émissions avec des structures plus modestes. C'est vrai que depuis que je fais cette formule de l'été, je vous ai fait découvrir des grosses structures telles l'Observatoire de Paris, le radiotélescope de Nancy, l'année dernière l'Observatoire de Lyon ou encore celui de Strasbourg. Alors je réponds à la suggestion de cet auditeur et cette année, je vais vous faire découvrir des structures plus modestes et des clubs d'astronomie locaux. On démarre tout de suite cette première émission de l'été. Alors ça y est, j'ai pris mon bâton de voyageur et je suis parti pour une balade à travers la France. Et là, je suis à l'extérieur. Vous pouvez d'ailleurs entendre autour de moi les bruits de la nature, les oiseaux qui chantent, le vent, etc. Je suis à 70 km au sud-ouest de Paris, en région centre, dans le département de l'Eure-et-Loire, à 20 km de Chartres, près de la ville de Maintenon et tout près de la ville de Pierre, dans un petit hameau très sympathique qui s'appelle Bois-Richeux. Et je vais rejoindre tout de suite Patrice Le Poupon, qui va être mon accompagnateur durant cette émission À toi les étoiles, avec d'autres membres aussi, et va nous faire découvrir son club d'astronomie, ses activités et son télescope qui présente une particularité. Vous allez comprendre en écoutant cette émission. Je rentre dans un bungalow où je retrouve plusieurs personnes qui sont là et qui m'attendent. Et je me dirige donc vers Patrice Le Poupon. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de m'accueillir ici. Est-ce que vous pouvez tout d'abord, dans un premier temps, avant qu'on aille un peu visiter, nous faire un peu l'historique de votre club, comment il a été créé, comment il a évolué ?
Alors, il a été créé en 1986, je crois que le premier adhérent, c'est Martial. J'ai dû le rejoindre un an plus tard, en 87. Et à cette époque-là, on faisait partie d'un club qui s'appelle le Céclair. Et ce club nous hébergeait au centre de Maintenon. Et on a passé comme ça un an ou deux. On s'est mis à vouloir rechercher un endroit où on pourrait observer sans être sous les lampadaires et sous la lumière de la ville. Et lors d'une réunion où on avait le maire de notre commune qui passait par là et où on lui exprimait notre besoin, c'est Martial qui lui avait exprimé notre besoin d'ailleurs, et ce jour-là, il nous a dit « j'ai ce qu'il vous faut ». Et ce jour-là, il nous a proposé un château d'eau à rénover. Voilà, ça a commencé comme ça, le club a vraiment commencé, a vraiment démarré comme ça, dans un vieux château d'eau qu'il a fallu entièrement restaurer. Il a fallu qu'on enlève tout ce qui touchait à l'eau, qui était dans le château d'eau, et c'est bizarre, on est dans un château d'eau, mais on n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau, c'est toujours la remarque qu'on nous fait. Donc il a fallu qu'on enlève les cuves et tout. Ensuite, il a fallu qu'on passe par le dessus parce que il a fallu casser le toit de ce château d'eau, installer des planchers, amener une coupole. Voilà un peu l'historique du club. Et puis on a eu en 92 notre premier télescope, un peu digne de ce nom, digne d'un club, quoi, voilà.
Ensuite, ça a évolué, 1992, lorsqu'on a préparé cette émission, vous avez parlé que vous avez du nouveau matériel.
Oui, alors le télescope qu'on avait eu en 92, bon, était un télescope qui fonctionnait un peu manuellement, même si à l'époque c'était pour nous quelque chose de fantastique, et il ne correspondait plus à l'astronomie amateur moderne, je dirais, notamment pour faire de l'astrophotographie, pour faire un peu de recherche scientifique, telles que les astéroïdes, recherche d'astéroïdes, études d'étoiles variables, etc. Donc, on est à nouveau reparti dans des dossiers. Là, cette fois-ci, je n'étais plus présent au club à cette époque-là. C'est Martial qui a mené un peu, je crois, les débats à cette époque-là. On a fini par, au bout de pratiquement 10 ans de dossiers, on a fini par se faire offrir par le syndicat Culture Sport Loisirs de Maintenon-Pierre le télescope 1-400. Alors, télescope, bien sûr, je dirais, on nous avait payé, je vais prendre une image, on nous avait payé l'ordinateur, mais on n'avait pas les logiciels. Et donc, les logiciels ont été payés par le club au fur et à mesure de nos moyens. On l'a équipé tout doucement. Il est pas encore entièrement équipé, il nous manque encore quelques petits matériels, mais ça commence à venir, on commence à avoir des résultats.
Voilà donc pour l'historique du club. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de vos installations. Alors là, je vois, on est dans un bungalow. Vous avez récupéré un bungalow de travaux, vous l'avez construit de vous-même?
Non, alors là c'était le club à l'époque. Ça date de quoi, Martial, des années 94, 95 à peu près. Quand on a eu fini le château d'eau, dans ce château d'eau, il n'y a pas tellement de place pour qu'on puisse se réunir. Et donc notre club, à cette époque-là, a décidé de faire l'investissement, de nous payer des bungalows. Et donc ils nous ont payé ces bungalows d'occasion, je précise quand même. Et on a fini par trouver un terrain avec la mairie de Pierre. Voilà.
Vous êtes installé pas très loin en fait de votre télescope, ça c'est bien. Comme ça, c'est très pratique pour aller soit au bungalow ou soit au télescope. On va peut-être parler un peu de ce qu'on y trouve dans ce bungalow. Je vois que vous êtes très bien équipé.
Alors, ce bungalow, disons qu'on divise les activités du club en deux parties. Une première partie qui est dans ce bungalow-là, et une autre partie dans le château d'eau, où là, on fait de l'astrophotographie. Ici, c'est un bungalow qui nous sert pour nous réunir déjà, et pour recevoir le public. Et là, nous avons un certain nombre de télescopes Dobson. On a un 400 qui va bientôt être terminé, je pense, au mois d'août, là. On a un autre 300, on a un 2-200. On a une lunette qui nous permet d'observer le soleil. On a des paires de jumelles, voilà, qui nous permettent de recevoir le public. On a aussi installé écran de projection, vidéoprojecteur, etc. Voilà.
Cet écran, vous en servez pour des conférences?
Oui, quand on reçoit du public, alors quelquefois, vous savez, l'astronomie, on est très tributaire des conditions météorologiques. Et donc, quelquefois, comme on se réunit tous les vendredis soirs à partir de 21 h, qu'on a régulièrement des gens qui viennent nous voir, quelquefois, le ciel ne permettant pas d'observer, on sort le rétroprojecteur, on montre les photos qui ont été faites par les membres du club ou faites par d'autres astronomes. On a aussi, puisqu'on a l'habitude depuis maintenant les années 86, de faire des conférences dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. On a l'habitude de ce genre de choses, donc on peut faire des conférences. Martial en parlait tout à l'heure, ou sur le système solaire, ou sur le ciel profond. Bon, peu importe, on choisit le thème, quoi.
Quel est votre champ d'action? Vous irez faire des conférences jusqu'à Paris si on vous le demandait?
Pourquoi pas, oui. Bon, on fait des conférences. On était où? On était à plus de 60 km là, l'autre jour, là. On était rendu dans le Perche la dernière fois, là, pour la fête du soleil. On était à 60 km d'ici. On a été jusqu'à Tours, Martial, je crois bien.
Oui, c'est dans le cadre de la fête de la science où on s'est déplacé plusieurs fois dans des villes de la région centre en général. On était à Bourges, à Châteauroux, à Chartres, bien entendu, puisque c'est proche, à plusieurs autres villes qui ne me reviennent pas maintenant. Et donc on faisait en même temps que d'autres clubs pour la fête de la science, on avait notre stand, on amenait nos télescopes et on intéressait les gens sur place.
Surtout la région centre où se trouve en fait le club, quoi.
Voilà, c'est ça. On est plutôt locaux, bien sûr. On est connus un petit peu plus loin, mais évidemment qu'en général, c'est la proximité qui prime.
Depuis que vous faites partie de ce club, qu'est-ce qui vous a marqué le plus?
Ah ben, ce qui marque le plus, c'est la pérennité. On est de plus en plus implanté, puisque ça fait quand même plus de 25 ans maintenant. Depuis le temps que je dis 25 ans, on approche de 30 ans. Et donc, on a un noyau dur de gens qui vraiment sont intéressés. Bon, il y a toujours des gens qui s'inscrivent un peu et puis qui repartent. Mais en général, l'astronomie, c'est une drogue dure. Et donc, on est implanté pendant très longtemps. On s'intéresse, on progresse. On a commencé avec des télescopes manuels, des télescopes un petit peu plus avec de l'électronique, des moteurs qui permettent ensuite de pointer automatiquement les étoiles, même si c'est pas toujours une bonne évolution parce que les gens oublient de connaître le ciel, donc il faut quand même bien connaître le ciel. Et maintenant on arrive à du matériel qui est quand même haut de gamme, qui permet d'avoir des images que les observatoires professionnels avaient il y a 20 ans. Maintenant, les amateurs peuvent très bien avoir des images très détaillées sur des galaxies ou des nébuleuses qu'on n'aurait jamais rêvé d'obtenir avant.
Êtes-vous gêné par la pollution lumineuse ?
Oui, alors ça, c'est un problème qui est récurrent. Hein. Et en plus, plus notre matériel est performant, plus ça nous gêne. Parce que bien entendu, il faut bien voir qu'une lumière de 60 watts située à 5 km dans la campagne noire, elle gêne. Donc c'est sûr que dès qu'on regarde une galaxie dont la lumière a mis des millions d'années à nous parvenir, c'est une lumière faible. Donc dès qu'on a une lumière plus proche, humaine, on peut dire, c'est gênant. Alors, à Bois-Richaud, on a quand même la chance d'avoir 180 degrés de paysage avec très peu de lumière. Donc là, on a quand même un endroit qui est assez protégé. Mais on a quand même les halos des villes plus lointaines qui nous gênent. Et ça, on n'y peut rien. Ce qui est le plus gênant, c'est les communes qui ne veulent pas éteindre les lumières la nuit. Et donc, des fois, toute une nuit en pleine campagne, on se demande pourquoi on continue d'éclairer comme ça la campagne. D'ailleurs, ce n'est pas bon pour l'équilibre de la nature, l'équilibre diurne, nocturne de la nature. Et bien sûr, ça gêne au premier lieu les astronomes. Alors, nous sommes sur une commune où on a très bien compris le problème et on peut éteindre les lampadaires d'un petit hameau, puisqu'on est groupé sur un petit hameau, le temps de nos observations, à condition de ne pas oublier de les remettre en route après. Et ça ne gêne personne, parce que bien sûr, de 11h du soir à 5h du matin, en général, il y a, surtout en semaine, il y a très peu de gens qui ont besoin de voir comme en plein jour.
Je pense qu'on a fait un descriptif assez complet pour la présentation de ce club. Que diriez-vous maintenant d'aller faire un peu de travaux pratiques et d'aller voir un peu sur place vos installations ?
Eh bien, c'est la pièce maîtresse de notre observatoire, donc on va vous l'ouvrir bien volontiers pour que vous puissiez le décrire aux auditeurs de votre chaîne de radio.
Eh bien, allons-y, je vous suis. Nous voici devant la porte de l'observatoire et on va ouvrir pour rentrer à l'intérieur.
Donc on rentre ici dans ce qui contenait les cuves et où il y avait tous les tuyaux qui montaient à l'étage.
Quand on voit maintenant, ça ressemble pas trop à un château d'eau en fait.
Donc ici vous voyez en haut on a la partie qu'il a fallu qu'on casse au marteau piqueur. Hein, quand on est descendu dans la cuve, il a fallu qu'on casse. Il y a quand même 80 cm de béton à peu près pour faire passer notre escalier. Et c'est nous qui avons installé cet escalier. Donc Martial va monter, allumer, et ben, je vous laisse le suivre, allez-y.
Ok, je vais suivre donc Martial et emprunter l'escalier qui a été fabriqué par les membres eux-mêmes. Et là, on arrive là-haut dans le télescope.
Voilà, alors là, ici, on arrive dans la salle de pilotage du télescope. C'est ici que l'hiver, on s'installe quand il fait bien froid. Le télescope est encore à l'étage supérieur. Donc ici, on a un plancher qu'on a isolé et là, en réalité, on est uniquement devant les écrans d'ordinateur et on pilote le tout avec ces ordinateurs. On va les mettre en marche tout à l'heure là et on va commencer à installer tout. On peut peut-être déjà aller voir le télescope là-haut.
Oui, bien sûr. Donc là, en fait, dans une ancienne cuve là, ici.
Alors ici, oui, on se trouve dans ce qui était la cuve du château d'eau, voilà.
D'accord.
Et l'étage du dessus, on va arriver sur ce qui était le toit du château d'eau. Le plancher qu'on a installé, c'était le toit du château d'eau.
Alors, je vais remonter encore des escaliers pour arriver dans la coupole. Voilà. La circonférence de la coupole, elle fait combien ?
4,80 mètres.
4,80 m, d'accord. Donc nous voici sur le toit, l'ancien toit, en fait.
Ce n'est pas l'ancien toit, parce qu'on l'a cassé, en fait, parce qu'il était rond. Et c'était très difficile de s'installer sur quelque chose de rond. Donc il a fallu qu'on le casse et qu'on fasse un plancher plat. Et donc, de la cuve du dessous, on a fait un poteau qui est indépendant du plancher sur lequel nous marchons, pour éviter les vibrations quand on observe.
On va fermer la trappe. Oui. Souvent des trappes dans les observatoires, voilà, ce qui nous permet ensuite de tourner autour du télescope sans risquer de tomber.
Là, on va ouvrir la coupole.
Alors, allons-y. C'est un volet donc qui se pousse.
C'est un volet qui se pousse, hein, fait une trappe qui se pousse. Et voilà, vous voyez, on est à peu près à 8-10 mètres du sol, quoi.
Et le cimier qui s'ouvre, on appelle ça un cimier, ça fait une tranche d'orange un petit peu qui s'ouvre dans la coupole, à une surface de 4 mètres carrés. Donc on a 4 mètres carrés sur le ciel de libre, et comme la coupole peut tourner, on peut pointer n'importe quel point du ciel.
Je regarde le paysage, alors c'est pas très radiophonique, mais on va quand même expliquer aux auditeurs, là vous avez vraiment un horizon bien dégagé, il n'y a pas de ville alentour.
Non. La première ville se situe à 3-4 km de nous, les premières lumières à 3-4 km de nous, puisqu'ici on peut éteindre les lumières du hameau. Donc ça nous permet d'avoir un ciel relativement correct dans un angle de 45 degrés au-dessus de l'horizon.
En revanche, là en face, je vois des éoliennes, ça ne vous gêne pas ?
Ah si, c'est très très gênant cette partie du ciel-là, avec ce télescope-là, nous est maintenant prohibé. Même avec les filtres, on a essayé, c'est plus possible. On peut plus observer de ce côté-là. Bon, tant pis, on fait avec.
On est dirigé sur quel côté là du ciel ?
Alors, du côté des éoliennes, vous avez Dreux. Sur le nord, vous avez Dreux. Sur l'ouest, on va trouver Chartres. Entre les deux, on a un petit village qui se trouve à 5 km de nous, qui s'appelle Bouglinval, avec son château. Et derrière nous, nous avons Maintenon, je dirais au nord-est, on trouve Maintenon-Pierre. Voilà. Ici, vous allez entendre les moteurs, les capots vont s'ouvrir.
On a entendu des volets s'ouvrir. Vous avez monté un système, c'est où c'était sur le télescope ?
Non, alors ce télescope, l'ensemble a été fourni par une société. Il a été entièrement acheté. Alors il faut savoir que cette monture-là, c'était la 18e au monde quand on l'a acheté. Bon, maintenant, il y en a un peu plus. Mais par contre, le télescope est utilisé par les astronomes professionnels au pôle sud pour faire des études sur la couche d'ozone. C'est son petit frère qui est là-bas, au pôle sud.
C'est vraiment marrant, ce système de clapet qui se ferme pour protéger tous les oculaires.
Et c'est très utile parce que ça évite les poussières viennent sur le miroir. Et même comme ça, c'est pas tout à fait parfait. Et donc, on est régulièrement obligé de nettoyer les miroirs. Donc, ici, on a en fait un télescope Ritchey-Chrétien, qui est très court, en fait, par rapport à une formule Newton qui sert à observer à l'œil. Et c'est un télescope qui est effectivement entièrement piloté.
Je vois à côté, il y a une lunette Bresser.
Oui, nous avons à côté une lunette. Alors, nous avons choisi de fonctionner comme ça, mais on pourrait fonctionner très bien autrement avec ce qu'on appelle un diviseur optique. Alors, pourquoi ceci ? Nous avons sur ce télescope deux caméras. Une caméra CCD pour faire les images de prise de vue, celles qui nous servent à faire nos photos, celles qui servent aussi à faire éventuellement un peu de scientifique. Et puis ici, nous avons une deuxième caméra sur une lunette qui, elle, sert au guidage du télescope. Parce que même si c'est une monture très perfectionnée, une monture de très haute qualité, il n'empêche que, par sa construction, on a ce qu'on appelle des erreurs périodiques. Ces erreurs périodiques, faut les compenser. Et il peut y avoir des très très légères divergences, si vous voulez, dans le suivi. Et les corrections sont faites par la deuxième caméra qui prend des photos, elle, tous les 1 ou 2 secondes. Ces photos sont comparées, l'une par rapport à l'autre. Et si jamais on voit qu'il y a une dérive sur une étoile, les étoiles qu'on cherche à pointer, alors là c'est au niveau du pixel, hein, on voit que notre étoile quitte le pixel sur lequel elle était, enfin, on voit. L'ordinateur voit que l'image qui est descendue par cette caméra CCD a changé de pixel, automatiquement l'ordinateur donne des ordres à la monture pour corriger ce petit défaut. En permanence.
Alors on explique ce que c'est qu'un pixel pour les auditeurs.
Alors un pixel, on arrive dans le domaine de l'informatique ou de la télévision d'ailleurs. Hein. Une télévision est constituée de pixels. Je ne sais plus exactement. Maintenant, on est en 1920 par 1080. Voilà, une télévision est constituée de petits carrés qui captent la lumière pour nous ou qui émettent de la lumière. Voilà, pour une télévision, c'est exactement la même chose. On est dans le même domaine informatique, dans les domaines d'écran informatique.
Je vous propose qu'on s'interrompe quelques minutes, le temps d'une pause musicale, et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission À toi les étoiles, toujours à la découverte de ce télescope qui est vraiment fascinant.
IDFM, 98 FM, toujours plus de proximité pour vous.
C'est l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h. Je vous rappelle que c'est la première émission de cette formule de l'été et que je suis aujourd'hui en région centre, dans le département de l'Eure-et-Loire, à 70 km sud-ouest de Paris et à 20 km de Chartres, dans un charmant petit hameau qui s'appelle Bois-Richeux. Je suis toujours en compagnie de Patrice Lepoupon, qui est mon accompagnateur durant cette émission, avec notamment Martial Maignan, mais aussi des jeunes membres de l'association. La nuit est en train de tomber et Patrice Lepoupon, juste avant cette pause musicale, on était en train de voir de plus près votre télescope. Et il y a une chose que je remarque, c'est que vous n'avez pas d'oculaire, c'est-à-dire vous ne pouvez pas, à partir d'ici, observer.
Si, vous ne l'avez pas vu, mais il est là, l'oculaire. Ah, d'accord. Mais en réalité, c'est un oculaire, vous voyez, c'est très peu pratique pour l'utiliser. Et en fait, cet oculaire-là ne nous sert que de temps en temps quand le télescope ou qu'on a fait une mauvaise manipulation a perdu un peu ses petits pour voir si on est bien pointé sur la partie du ciel qu'on cherche à voir. Parce que de toute façon, on demande à l'ordinateur de nous pointer tel ou tel objet. Nous, on ne touche pas au télescope. Il n'y a rien à desserrer, rien à toucher, tel qu'il est là, il va se pointer tout seul.
Alors donc vous restez toujours en bas en quelque sorte.
Toujours en bas, sauf pour tourner la coupole, parce qu'elle n'est pas encore motorisée cette coupole, et donc ça nous permet de faire que des pauses d'une demi-heure, on ne peut pas aller au-delà d'une demi-heure, parce que toutes les demi-heures il faut qu'on vienne tourner la coupole, donc on arrête la pause en bas. On vient tourner la coupole pour la ramener, puisque la Terre tournant, l'objet quitte la fenêtre de vision, quoi. Et il faut recentrer l'objet au milieu de cette fenêtre.
J'imagine que la motorisation de la coupole, ça, c'est dans les projets futurs.
C'est dans les projets futurs, ce n'est qu'une question d'argent.
Bah justement, on va la tourner, cette... Ah ouais. Cette coupole, alors on explique aux auditeurs, voilà, à s'asseoir la main, d'accord.
Ah bah non, tous dans le même sens.
Voilà. Ça fait un peu de bruit, mais c'est pas si bruyant que ça finalement.
Non, c'est pas très bruyant. Alors là, vous avez sur la coupole ce qu'on appelle un écran. Alors c'est un petit peu technique, c'est un écran à flat. Quand on fait de la photo en astronomie, on fait une photo. On enregistre cette photo, sauf que sur cette photo, on va trouver tout un ensemble de défauts. Et pour éliminer ces défauts, il y a tout un ensemble de techniques. Alors, la plus simple, c'est par exemple, je vais encore utiliser un terme technique, on va faire ce qu'on appelle un dark. Alors, un dark, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement fermer le télescope, faire le noir le plus complet autour du télescope et faire une photo dans le noir, du même temps de pause qu'on a fait la photo de l'objet, de la galaxie. Et ensuite, on va enlever ce noir de la photo d'origine. Pourquoi ? Parce que sur ce noir, en fait, on va enregistrer les défauts de l'électronique. On n'a plus d'objet, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien, on est dans le noir complet. Donc on a enregistré sur cette photo de noir que les défauts de l'électronique. Donc on va les enlever. Et le flat, eh ben, c'est tout simplement une lumière relativement brillante que l'on envoie au télescope, de manière là à faire apparaître un autre défaut, c'est des poussières qui peuvent se trouver sur le miroir. Et c'est pareil, eh ben, le flat, on va l'enlever après de la photo d'origine pour obtenir une photo sans défaut.
Parce qu'on peut dire là, dans la coupole, il y a une bonne odeur de blé fraîchement coupé qui emplit la coupole. Et je peux voir dans l'atmosphère la poussière en suspension dans l'atmosphère parce que le blé a été battu il n'y a pas très longtemps. Donc effectivement, tout ça, ça fait de la poussière sur le télescope.
Ça fait, oui, tout à fait, ça fait de la poussière sur le télescope. Il faut d'ailleurs, comme je vous le faisais remarquer, que là, on renettoie notre miroir sur lequel on a à nouveau de la poussière déposée.
Comment vous faites pour nettoyer le miroir ? Parce que c'est quelque chose de très fragile.
Ah, on ne le touche pas. Alors, on va le nettoyer avec des produits particuliers. Puisqu'en fait, un miroir tel que celui-là, c'est juste quelque chose qui a été poli donc à la main, sur laquelle on a déposé une aluminure dans une chambre à vide, et sur laquelle on met juste un vernis. Mais un vernis très spécial et une couche très très fine, ultra fine. Et donc, si on le touchait même avec des brosses, on rayerait. Et là, ça serait définitif. Donc, quand on le fait, on prend des produits qu'on pulvérise et on met un chiffon au pied du miroir pour récupérer le produit et les petites poussières et les petites brins de paille qui tombent. Après, on laisse sécher. Alors après, on peut aussi faire ce qu'on appelle un grand nettoyage, c'est-à-dire qu'on démonte tout et on trempe le miroir dans une grande bassine d'eau avec du liquide de vaisselle, c'est ce qu'il y a de mieux. On ne touche pas, on attend, et après on rince avec de l'eau distillée. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous voyez, ce télescope, il est mis sur une monture équatoriale. Donc, il a fallu qu'on fasse tout un tas de mises en station, ce qu'on appelle une mise en station, c'est-à-dire orienter la monture vers l'étoile polaire.
Pointer l'étoile polaire, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, après, le télescope arrive à se repérer dans le ciel.
C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Disons qu'on va pointer l'étoile polaire le plus précisément possible, de manière à ce que ensuite les moteurs de la monture compensent parfaitement le mouvement de la Terre par rapport aux étoiles. Les étoiles, une étoile qu'on regarde dans le ciel, en fait, c'est une étoile, elle est toujours fixe, elle ne bouge pas. Elles sont tellement lointaines, même si en réalité elles bougent, mais elles sont tellement lointaines que pour nous, de toute façon, leur mouvement est négligeable. Disons, à l'échelle humaine, le mouvement est négligeable. On peut prendre une petite image, les pyramides en Égypte, les aérations qu'on pensait voir dans les pyramides, en réalité, étaient des espèces de lunettes qui visaient un certain nombre d'étoiles à cette époque-là. On l'a découvert après avec les logiciels qui ont permis de remonter le temps. Ces étoiles, maintenant, ne sont plus dans ces fenêtres parce que les étoiles ont fini par bouger au fil des ans. Mais on est à une échelle de 2 à 3 000 ans, là. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que les caméras que vous voyez là, notamment la caméra de prise de vue, est équipée là de roues à filtres, et notamment de filtres rouge-vert-bleu. En astronomie, il n'y a pas de couleur. Et donc, quand on regarde des photos qui sont faites par Hubble, qui sont faites par tous les télescopes professionnels, en réalité, c'est des photos qui sont recomposées par ces filtres. Rouge, vert, bleu, ou H-alpha, ou en soufre, ou en hydrogène, peu importe. Notre télescope est équipé de tous ces filtres-là. Et ensuite, quand on additionne, parce qu'en réalité, puisqu'on fait de l'informatique là et du traitement d'image, quand on additionne ces photos-là, c'est à ce moment-là qu'on leur donne une couleur. On dit la prise de vue faite avec le filtre rouge, ça va être rouge. Celle prise avec le filtre vert, ça va être vert. Celle prise avec le filtre bleu, ça va être bleu. Et puis l'hydrogène, on va le mettre en vert. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait des belles photos. Pas forcément scientifiques, mais des belles photos. En plus, cette caméra est refroidie et elle descend jusqu'à moins 50 degrés, de manière à limiter, justement, tout à l'heure on parlait des défauts liés à l'électronique et autres, et justement le fait de refroidir la caméra enlève et élimine un certain nombre de défauts.
Alors on a entendu un petit peu de vent dans le micro, hein, forcément, puisqu'on a ouvert le cimier. On va redescendre d'un étage pour la mise en route du télescope.
Donc là, tout est piloté par informatique, donc il va falloir que nous allumions les ordinateurs.
L'informatique ne souffre pas de différence de température
Non, parce que, enfin, il fut une époque où ici, on n'avait pas de chauffage, on faisait des séances d'observation où on avait les couvertures sur la tête, etc., parce que nous étions dans un véritable frigo. Et puis, on a eu tellement froid cet hiver qu'on s'est décidé à mettre chauffage central, électrique, uniquement dans la cuve ici. Sachant qu'il ne faut pas, en astronomie, il ne faut pas qu'on chauffe beaucoup. Donc, on a été obligé d'isoler encore un peu plus le télescope qui est au-dessus de nous, de manière à ce qu'on ne crée pas de la turbulence, quoi.
On explique aux auditeurs, donc là, la turbulence, c'est la source de chaleur qui crée donc un trouble de l'image pour les télescopes, et c'est très ennuyeux, effectivement.
Alors maintenant que tout est en place là-haut, on va prendre en main le télescope avec les logiciels de pilotage. On va mettre tout en marche, toutes les caméras, tous les focuseurs et tous les télescopes. Ici, on a trois écrans. On a un premier ordinateur où on a un certain nombre de cartes du ciel. Enfin, on prépare nos séances d'observation. Hein. Et ici, vous voyez, apparaît les cartes du ciel. On a une bonne dizaine de bases de données sur cet ordinateur qui représente environ 15 milliards d'objets, à peu près, au total. Là, face à nous, on a deux écrans. Le premier écran nous montre une belle carte. Et le deuxième écran va nous servir à installer tout ce qui va être le pilotage du télescope pendant les prises de vue. Donc, on va lancer ça. Donc, on va déjà prendre en main le télescope. On va établir la communication avec le télescope. Et on va laisser les initialisations se faire.
Je vais vous faire rire parce qu'en voyant ces trois écrans d'ordinateur, j'ai l'impression de me retrouver dans mon studio radio.
Bon. Voilà. Alors maintenant, sans les caméras, on va activer le panneau de la caméra principale et on va lui demander de se mettre en température, puisque là, actuellement, la caméra, la température, elle est à 18 degrés. Donc, on va lui demander de descendre à moins 10, par exemple. Voilà. Là, il faut attendre un tout petit peu avant de pouvoir faire nos prises de vue que cette caméra, la température descende.
Comment générer le froid ?
Alors, le froid est généré par ce qu'on appelle des modules de Peltier. C'est que de l'électronique. C'est plusieurs étages de modules de Peltier. On peut descendre jusqu'à moins 50. Voilà, donc on a démarré la caméra principale. On va démarrer maintenant la caméra secondaire. Et il nous reste un logiciel à démarrer, le logiciel de guidage du télescope. Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à lancer une observation. Donc ici, on va demander au télescope de pointer un objet. On va lui demander de pointer M106, qui est une galaxie. Pourquoi M106? En fait, M vient de Messier, et qui est un des catalogues qui a été chargé sur cet ordinateur. Et Messier était un astronome du roi Louis XIV. Et il a repéré, je crois, ces 110 objets dans le ciel, de 1 à 110. Et là, nous allons demander au télescope de pointer M106. Voilà. Première chose, il nous dit que l'objet recherché n'est pas dans la carte du ciel qui est affichée. Et il nous demande si on veut changer la visualisation. Donc, on va lui demander de changer la visualisation. Voilà. Et là, la représentation d'M106 apparaît à l'écran. Et on voit ici le champ qui est occupé par notre caméra CCD, le champ de prise de vue qu'on va avoir. Donc on s'aperçoit que, en fait, avec M106, on va avoir deux autres petites galaxies qui sont probablement des galaxies satellites de M106. Et donc là, à partir de ce moment-là, le logiciel nous demande si je veux pointer le télescope sur cet objet. Il suffit de lui dire oui. Et on voit ici apparaître les mouvements du télescope et on entend là-haut le télescope qui est en train de se déplacer.
Effectivement, oui, on l'entend, oui.
Voilà, le télescope est pointé sur M106. Maintenant, je vais regarder ma caméra de prise de vue. Est-ce que la température que je vais demander est bonne? Non, pour l'instant, il faut encore attendre.
6 degrés.
6 degrés, oui, mais continue à descendre. On va attendre un peu.
Pendant ce temps-là, je vais aller en profiter pour questionner des nouveaux membres du club et je vais leur demander leur ressenti. Par exemple, une voix féminine, vous pouvez tout d'abord un peu vous présenter.
Bonjour, je m'appelle Vanessa. Donc, j'ai découvert le club il y a quelques mois. Donc, je suis totalement novice dans le domaine. Je ne connaissais pas l'astronomie, donc je découvre au fil des mois, au fur et à mesure. Donc, Mes collègues, effectivement, sont assez instruits dans le domaine, donc ils transmettent peu à peu les connaissances, parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses passionnantes à découvrir dans différents domaines scientifiques. La physique, l'astrophysique, la photo, la vidéo, en fait, c'est très riche. Et puis effectivement, les découvertes scientifiques évoluent au fil du temps, donc c'est pas un domaine figé. Effectivement, la découverte du ciel, je pense, passionne pas mal de gens. On n'ose pas pousser la porte. Effectivement, on s'imagine que c'est trop pointu, mais finalement, petit à petit, on s'y met, on découvre. Et effectivement, le fait de découvrir, d'observer, de vraiment s'arrêter sur les planètes et de voir effectivement comment ça évolue, c'est passionnant.
Merci. On va demander aux voisins.
Alors, moi, je m'appelle Arnaud. Donc, j'ai découvert au même moment le club. Moi, j'étais passionné au départ un petit peu d'astronomie quand j'étais gamin, mais bon... on va dire, regarder les étoiles comme ça dans le ciel. Et puis, quand j'ai découvert ce club, pas très loin de chez nous, si on est maintenant, et on est venu ici. Alors, l'avantage qu'il y a dans ce club, c'est que les gens sont très ouverts. Ils partagent leur passion, justement. Nous, on est en train de découvrir petit à petit, apprendre un peu le ciel avec les différents membres. Alors, au niveau du télescope, c'est sûr, là, tout ce qui est pilotage, on n'y connaît rien du tout. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment on prend les photos... toutes ces choses-là, et c'est vrai que c'est très passionnant, et les gens sont très sympathiques ici.
Merci beaucoup. Et puis, on arrive donc à Karim, le dernier. Alors, même question.
Alors déjà, moi, ça va faire un an que je suis au club. Je l'ai trouvé par hasard, parce que je suis passionné depuis l'âge de 8 ans, en faisant mes petites recherches sur Internet, savoir s'il y avait un club dans les environs, etc., vu que en pleine ville, c'est pas évident, etc. Donc j'ai recherché sur Internet, je suis tombé sur ce club, j'ai appelé, ça s'est très bien passé, j'ai été très bien reçu, très bien accueilli, le feeling s'est fait très rapidement. Puis depuis un an, je suis tous les vendredis, même en semaine des fois de temps en temps, avec Patrice, Martial, etc., on fait nos observations, et voilà.
Votre passion depuis tout petit ?
Passion depuis l'âge de 8 ans, en me demandant quels étaient ces petits points présents dans le ciel, en découvrant tout seul, sans l'aide des personnes, mais mes constellations, en voyant les planètes, je me demandais quelles étaient ces étoiles qui bougeaient, mais en fait c'était des planètes. Donc tout simplement, voilà, puis à l'aide d'une paire de jumelles, j'ai commencé avec une paire de jumelles, je n'avais pas de télescope, donc j'ai commencé avec une paire de jumelles, et puis comme Galilée, hop! En allant sur Jupiter, j'ai vu ces petits satellites à côté. Je me suis demandé ce que c'était. Donc, je me suis renseigné en me documentant, etc. J'ai vu que c'était la planète Jupiter. Donc, j'étais stupéfait. Et de là est venue ma passion pour l'astronomie.
Et voilà, vous êtes tombé dedans.
J'ai tombé dedans, exactement. Donc, depuis cet âge-là, depuis l'âge de 8 ans maintenant, puis les années ont passé. Maintenant, je suis passionné d'astrophysique, d'exobiologie, etc., de tout plein de domaines qui touchent. Qui touche au ciel.
Et dans votre profession, vous avez quelque chose en rapport à votre passion ?
Je m'attendais à cette question. oui, exactement. Je travaille à la Maison de l'Astronomie à Paris.
D'accord. Je vous remercie. On revient vers les appareils, je crois. Apparemment que la CCD a terminé.
Oui, ça y est, la CCD est descendue en température. Ici, vous voyez qu'on voit le mouvement du télescope maintenant. Et maintenant, il est en train de suivre M106 et il ne va plus la quitter. Ici, nous avons normalement à régler la focale de chacune des objets. Mais disons que c'est une manipulation qui est un petit peu longue. Donc, comme on a les focales précédentes, on va conserver les focales précédentes. En réalité, un télescope comme celui-là, il est très sensible aux températures extérieures et il peut y avoir des dilatations qui se produisent. Et donc, nous sommes obligés de modifier les focales en permanence. Et donc, ici, nous avons ce qu'on appelle des robots focus sur la lunette de guidage et sur le télescope qui permettent de rectifier la focale. Comme pour un appareil photo, c'est exactement la même chose. Vous réglez la focale de votre appareil photo, vous réglez la focale d'un télescope. Voilà. Donc, il faut faire la mise au point à chaque fois. Donc là, maintenant, la caméra CCD étant en température, nous allons lancer la pause. Donc on met une pause de 300 secondes et ensuite on va attendre que ces 5 minutes soient passées pour voir apparaître à l'écran notre photo.
Eh bien, écoutez, pendant ce temps-là, moi, je vous propose qu'on marque une pause musicale et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission À toi les étoiles, où on retrouvera donc l'image prise par le télescope. Retour ici à l'Observatoire de Bois-Richeux pour cette émission À toi les étoiles, la première de cette formule de l'été. Juste avant cette pause musicale, eh bien, on avait lancé 5 minutes de pause avec le télescope. Alors là, le temps est passé. Alors, on a une image maintenant qui est apparue.
Oui, voilà la galaxie M106 qui est apparue à l'écran. Et donc, maintenant... normalement, il faudrait qu'on en fasse plusieurs pour accumuler la lumière, puisque un télescope, c'est un entonnoir à lumière, de manière à faire apparaître de plus en plus nettement les bras de la galaxie, ainsi que toutes ces galaxies satellites qui sont beaucoup plus faibles que M106. Au niveau scientifique aussi, cette image, ça c'est quelque chose que les astronomes amateurs font beaucoup maintenant. Cette image, on va la conserver et on va refaire cette pose dans un mois, deux mois, trois mois, peu importe. Et on va demander au logiciel que l'on a là de comparer les deux photos. On fait ce qu'on appelle un blink de photo, de manière à ce qu'il nous dise si entre la photo qu'on a faite aujourd'hui et la photo qu'on fera dans 2-3 mois, il y a quelque chose qui est apparu de nouveau sur la photo. Alors ça peut être un astéroïde, il faut être connecté à la base de données qui va nous dire non, vous avez un astéroïde, mais ça peut être aussi une étoile qui a explosé, ce qu'on appelle une nova, voire une supernova. Et là, c'est une information qu'on va communiquer aux astronomes professionnels qui, eux, l'observeront avec d'autres moyens que nous, on possède.
Là, donc, c'est une image brute là qu'on a là.
Alors là, oui, ça, c'est une image brute. Hein. Bien entendu, on va en faire plusieurs avec différents filtres. Par exemple, on va faire avec les filtres hydrogène, avec les filtres soufre, etc. De manière à faire plus ou moins apparaître certains gaz ou certaines matières dans la galaxie. Et ensuite, on va recomposer ces photos. Mais à partir de ce moment-là, si on fait de la recomposition de ce genre de photos, on n'est plus dans le domaine scientifique, on est plus dans le domaine artistique, on cherche à avoir une belle photo.
Mais j'avoue quand même, pour une image brute, c'est quand même pas mal, hein.
Oui, c'est quelque chose qui, il y a ne serait-ce que 10-15 ans, il y avait très très peu d'astronomes amateurs qui étaient capables d'avoir une image comme celle-là, et surtout en si peu de temps. Et je pense qu'il y a 10-15 ans, un amateur aurait donné cette photo-là, elle aurait été publiée.
Vous avez eu des publications quand même, des fois ?
Non, pas vraiment, parce que le télescope, ça fait peu de temps qu'il est en fonction, et on a encore quelques petits réglages. On a eu un incident sur ce télescope-là, et donc on a encore quelques petits réglages à effectuer. Mais je pense qu'à partir du mois de septembre, on va vraiment démarrer une partie où là, on pourra faire des publications. Alors, on a envoyé une image de M106 déjà à un certain nombre d'astronomes amateurs qui nous ont dit que les photos qu'on faisait étaient prometteuses.
J'avoue, oui, les images sont quand même pas mal du tout, hein.
Donc maintenant, il faudrait lancer d'autres poses. Je ne sais pas ce que vous souhaitez qu'on fasse, ou on peut faire un autre objet éventuellement, parce que là, maintenant, il suffit de le demander et puis on voit un autre objet, quoi.
Bah écoutez, ce sera avec plaisir, mais l'heure tourne, donc il sera bientôt temps de terminer cette émission. Auparavant, j'aimerais quand même qu'on parle un peu de votre club et de ses activités. Donc évidemment, vous proposez des observations, et je crois que prochainement, vous avez des événements, notamment la Nuit des Étoiles, je crois que vous allez participer.
Oui, on participe à la Nuit des Étoiles et on a organisé des stages d'été pour des jeunes, disons au niveau de l'astronomie, des vulgarisations. Par exemple l'observation du Soleil. C'est un stage qu'on vient de faire et qui n'est pas tout à fait terminé, puisque en astronomie, malheureusement, on est dépendant des conditions météorologiques, encore une fois. Donc on a fait des stages pour les jeunes où on avait l'observation du Soleil, les constellations, se repérer dans le ciel, la Lune, les planètes, etc. Et une partie un petit peu plus technique où là, on les amène ici et on fait justement les photos que vous venez de voir. Voilà. Alors, il faut aussi savoir que notre club se réunit tous les vendredis soirs, sauf quelques-uns du mois d'août, peut-être en raison des vacances, tous les vendredis soirs à partir de 21h, et qu'on accueille volontiers les gens, que c'est gratuit, ils viennent, et puis ils observent si le ciel le permet.
Pour venir vous voir, comment on fait ?
Plusieurs méthodes, où on met Bois Richeux comme une de pierre dans le GPS et on vient tous les vendredis soirs à partir de 21h. Bien entendu, nous vous recommandons quand même de nous appeler un peu avant, parce qu'il y a quelques soirées où on peut être absent, hein, notamment au mois d'août, les vacances obligent. Il y a aussi le ciel, déjà, regardez si vous venez nous voir et vous souhaitez observer quelque chose, que vous ayez un beau ciel. Pas trop de lune, pas une pleine lune, c'est bien. Un croissant de lune, c'est mieux si on veut regarder le ciel profond, notamment les galaxies et tout un ensemble d'autres objets, des nébuleuses, des amas globulaires. Et les planètes aussi, c'est pareil. Nous demander avant quelles planètes ils pourront regarder. Ils pourront après, la porte est grande ouverte et c'est gratuit.
Et s'il y en a qui veulent adhérer aussi, ils peuvent.
Ah ben bien sûr, l'adhésion au club, là, il suffit de venir et puis d'adhérer, c'est aussi bête que ça. C'est, je crois que ça doit être 70€ l'année. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre site internet boisricheux.free.fr.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Alors, avant de partir, on va remonter une dernière fois là-haut dans le cimier pour tout fermer. Tout éteindre et tout fermer, évidemment. Hein.
Alors là, il faut un petit peu de muscle.
Il faut pas tomber.
Voilà. On y arrive.
Il n'y a pas de risque que le vent l'ouvre, hein, parce que quand on voit comment c'est dur.
La coupole pèse plus de 800 kilos. C'est de l'acier inox, ça va. On n'a jamais eu de problème depuis 25 ans.
On va maintenant redescendre jusqu'à en bas pour fermer l'observatoire et puis conclure cette émission à toi les étoiles. Et nous voilà dehors. Et on va parcourir les 100 mètres qui nous ramènent au local. Et puis pendant ce temps-là, je vais tout d'abord vous demander le mot de la fin, comme j'ai l'habitude de faire. Alors on va commencer par Monsieur Le Poupon.
L'astronomie, c'est une activité, je pense, où tout le monde peut y trouver son plaisir. Voilà le mot de la fin.
Martial Ménian.
J'ai réfléchi un petit peu pour mon mot de la fin. C'est une phrase que j'aime beaucoup d'un astronome. C'est « L'étonnant n'est pas que l'univers soit aussi grand, mais que l'homme ait réussi à le découvrir.
» Merci beaucoup. Quelques mots aussi pour les jeunes ?
Le mot de la fin, on va dire qu'on conseille un maximum de gens qui viennent nous rejoindre. Vous verrez, l'accueil est convivial, les gens sont sympathiques et vous allez découvrir de merveilleuses choses de l'univers.
Oui, l'équipe est vraiment chaleureuse, tout le monde est accueilli et chacun a son propre domaine de prédilection, donc effectivement c'est un enrichissement pour chacun.
Merci à vous, j'ai pris grand plaisir à faire cette émission ici dans cette région centre en Eure-et-Loire pour cette émission, cette première émission de l'été d'À toi les étoiles. J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission, autant que moi j'ai passé un très agréable moment en compagnie des membres du club d'astronomie de Bois-Richeux. Je voudrais faire un remerciement chaleureux à sa présidente, ainsi que Patrice Le Poupon, qui a été mon guide ce soir, en compagnie de Martial Ménian, et puis les jeunes là aussi, hein, qui sont la relève. Merci en tout cas de m'avoir fait découvrir votre club, et puis ce télescope en haut d'un château d'eau. Alors ça, c'est très original, et franchement, je trouve ça très fun. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin, et notamment Véronique Gastin avec son acolyte pour l'émission Dobry Czas. Et puis à 20h, ce sera Patrick Molis pour Country et Souvenirs. Enfin, à 22h, ce sera Astromancie avec Ariane. Et puis à partir de minuit, les rediffusions de la nuit. Quant à moi, eh bien, je vais reprendre mon bâton de voyageur et je vais me balader comme ça dans la France pour rechercher d'autres endroits à vous faire découvrir dans la prochaine émission d'À toi les étoiles qui aura lieu le mercredi 19 août 2015 de 18h à 19h. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne fin de semaine, bonnes vacances pour ceux qui y sont, bon courage pour ceux qui n'y sont pas, bel été à toutes et à tous et rendez-vous dans un mois et merci pour votre fidélité.
Bonjour, ici Jacques Bessy. Vous aimez IDFM Radio Anguin, votre radio de proximité. Pour une contribution modique, rejoignez-nous en devenant membre bienfaiteur de notre association et participez à la grande aventure de la radio. Renseignements à IDFM 26 bis rue de Mora, 95 880 Anguin-les-Bains ou au 06 03 03 11 40.
Sur IDFM, c'est déjà l'été.
Déjà l'été.